Hello à toutes et hello à tous, bienvenue sur le podcast Inspirons le féminin, le podcast des femmes qui viennent de tout horizon. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir chaque semaine le portrait d'une femme qui se livre sans filtre sur son parcours, ses réussites, ses échecs, ses apprentissages, mais aussi ses doutes, ses difficultés. Inspirons le féminin, c'est la voix de toutes les femmes et de l'entrepreneuriat sans paillettes. Un podcast pour vous inspirer et pour trouver votre modèle. Rendre accessible l'art à tous et mettre en lumière la nouvelle génération d'artistes, c'est la mission que s'est donnée Mathilde Soubi, la créatrice du studio Studio Artera. Un studio qui s'inspire de ceux d'Hollywood qui repère et lance la carrière des comédiens. Mathilde et son associé Giuliano ont repris le concept pour créer quelque chose de totalement nouveau en France. Ensemble, ils ont pour objectif de développer la carrière des artistes à travers la vente de leurs œuvres, des expositions ou encore des collaborations avec des grandes marques. Mathilde a développé le goût pour l'art depuis son plus jeune âge. Mais quand elle décide de se lancer dans les études, ses parents lui préfèrent une école de commerce plutôt qu'une école dans le domaine de l'art. Mais son amour pour l'art la rattrapera quelques années après et ses études en école de commerce seront finalement une force pour cette femme qui a toujours voulu entreprendre. Dans cette interview, on parle de son parcours, des artistes, du défi de gérer l'humain derrière son métier, mais aussi de l'importance de l'art dans notre quotidien. Car oui, nous ne pouvons pas vivre sans l'art, et vous allez l'entendre, les études le prouvent.
C'est que je pense qu'être face à une œuvre d'art, c'est comme quelque part lire un roman. C'est qu'en fait, on se plonge dans une autre histoire, on peut voir les choses sous une autre perspective, et en fait, ça nous permet de comprendre encore plus l'humain. Donc ça, c'est extrêmement fort, ça nous connecte à nous-mêmes et ça nous connecte aussi aux autres.
Mathilde nous parle de la création de son studio, mais également de la manière dont elle a réussi à décrocher de très beaux clients pour la mise en lumière de ses artistes. Une belle surprise que je vous invite à découvrir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mathilde.
Bonjour Fatima.
Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Alors, tu es la fondatrice et la CEO du studio Artera et tu rends l'art accessible à tous. On va en parler. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de prendre le temps et d'être avec moi aujourd'hui pour échanger. Donc, je m'appelle Mathilde Soubi, j'ai 29 ans. J'ai habité quasiment toute ma vie à Paris, j'ai fait mes études à Lyon et j'ai lancé il y a maintenant un an et demi une entreprise qui s'appelle le Studio Artera que je présente comme une agence d'artistes qui a deux missions, qui est d'aider les artistes dans le développement de leur carrière, donc propulser la carrière d'artiste visuel, et le deuxième objectif qui est, comme tu l'as très bien dit, de rendre l'art accessible à toutes et tous.
D'accord. Mais juste avant ça, justement, avant de créer Studio Artera, tu as travaillé pour des très belles institutions, donc le Palais de Tokyo ou l'Opéra de Paris. Est-ce que tu peux nous dire justement quel était ton rôle et ce que tu en as appris et comment tu étais déjà connectée au monde de l'art ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait mes études à l'EM Lyon. Et à la fin de mes études en école de commerce, j'ai su tout de suite que j'avais envie de travailler dans le monde de l'art. D'ailleurs, j'avais fait mes stages dans ce secteur-là. Donc à la fin de mes études, j'ai envoyé plein de candidatures dans des institutions culturelles, dans des startups aussi, dans l'art, enfin j'étais vraiment très ouverte. Et c'est le Palais de Tokyo qui m'a répondu pour mon stage de fin d'études. Donc j'ai passé des entretiens, je l'ai eu. Donc j'ai démarré par 6 mois de stage là-bas en mécénat culturel. Et après j'ai enchaîné avec un CDD de 6 mois là-bas. Donc ça a été ma vraie première expérience un peu longue dans le monde de la culture et de l'art. Mmh. Et ce que je faisais en mécénat culturel, qu'on peut aussi appeler développement économique, c'est que je créais des passerelles entre des entreprises, des marques ou des structures qui avaient envie de soutenir les expositions du Palais de Tokyo, les projets du Palais de Tokyo. Il faut savoir que les subventions publiques, elles baissent aujourd'hui. Donc en fait, le monde de la culture n'est pas uniquement financé par l'État, mais doit développer des fonds propres. Et ces fonds propres viennent beaucoup en fait des entreprises aujourd'hui qui font ça dans une démarche qui est souvent sociale, qui est souvent assez vertueuse pour soutenir des projets artistiques. Donc j'ai fait ça pendant un an au Palais de Tokyo. Je suis partie parce que c'était un CDD. Et après j'ai été embauchée à l'Opéra de Paris où je suis restée 3 ans. Et j'y faisais la même chose avec plus de responsabilités. Donc pendant 3 ans j'ai tissé des passerelles entre des entreprises, tous les projets de l'Opéra de Paris. Et il y avait un vrai axe aussi d'ouverture à de nouveaux publics, parce que c'est vrai que des institutions comme l'Opéra de Paris ont des enjeux de financement, mais aussi des enjeux de toucher d'autres personnes que l'élite. C'est comment on fait venir d'autres personnes dans nos murs, en fait. C'est vraiment ça qui leur prenait beaucoup de réflexion. Et moi, j'ai essayé de trouver des fonds auprès du privé pour financer cette démarche.
D'accord. Et pourquoi tu étais déjà sensible à l'art? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, c'est dans ce domaine-là que j'ai envie de faire ma carrière, enfin, que j'ai envie de travailler?
C'est une super bonne question et je me suis souvent posé la question de vraiment d'où ça venait. Et je pense que c'est quelque chose qui est venu en réalité petit à petit. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par l'art au sens large. Et ça, c'est vrai que je pense que ça m'a aussi été transmis par ma famille. Ma famille aimait beaucoup l'opéra, le ballet, etc. Donc, ils m'ont beaucoup emmenée aussi, même au théâtre, voir des spectacles. Je me souviens, tous les étés, on allait au Festival d'Avignon. Ma mère m'a emmenée voir des pièces de théâtre, même pour enfants, de la comédie à de l'art avec des masques. Enfin, j'ai baigné là-dedans assez rapidement, donc je pense que cette sensibilité artistique s'est développée. Ouais, donc ma sensibilité artistique s'est développée. Et pour mon rapport beaucoup plus à l'art visuel, donc ce que je fais aujourd'hui, donc qui est plus de l'art contemporain, donc de la peinture, de la photographie, là, je pense que c'est vraiment venu pendant mon adolescence et je m'en suis rendu compte lorsque, par exemple, j'allais voir des expositions dans des musées. Parfois, je pouvais rester 45 minutes devant une œuvre. Donc c'est quelque chose qui est venu à moi. D'où ça vient, je sais pas bien. Je sais pas si on peut toujours expliquer ses passions. Et en tout cas, ça a grandi. Et dès que je suis rentrée à l'EM Lyon, donc en école, dès mon premier stage, j'ai su que j'avais envie de travailler dans le monde de la culture parce que c'était ce qui m'animait et je ne me voyais pas faire une profession, j'allais pas avoir de la passion.
D'accord, donc c'est venu comme ça avec ta famille qui avait déjà sensibilisé plus ou moins à l'art et qui... Et ensuite, tu l'as développé de toi-même à travers des expositions, des choses comme ça.
Exactement, mais c'est vrai qu'en plus... J'ai été sensibilisée par mon environnement, mais après, eux m'ont jamais encouragée à travailler dans le monde de l'art. Je ne veux pas dire que c'est l'inverse, mais on m'a souvent dit, écoute, ça peut être risqué, c'est difficile de trouver un emploi là-dedans. Donc je pense que ma vie professionnelle, pour le coup, c'est vraiment moi qui l'ai orientée et qui ai pris ce pari de travailler dans ce secteur qui parfois peut être compliqué aussi.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour tes parents, ton entourage, ça leur faisait pas un peu, entre guillemets, peur de se dire bah, d'aller dans l'art alors que c'est compliqué de trouver une place, de pouvoir gagner correctement sa vie? C'est un secteur qui est assez bouché. Comment ils ont réagi, en fait?
Quand j'avais 18 ans, après le bac, je leur ai dit que j'avais envie de faire des études d'histoire de l'art. Donc là, c'est là qu'ils m'ont très rapidement dit « ceci n'est pas une bonne idée, tu ferais mieux de faire une prépa ou d'aller à Sciences Po, etc. » Et j'étais encore jeune, donc c'est difficile à cet âge de savoir ce qu'on veut faire vraiment. Mm-hmm. Donc j'ai un peu mis mon intuition qui me disait d'aller dans l'art de côté, et j'ai un peu suivi cette voie familiale, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai été rattrapée en fait par cette passion une fois que j'étais en école. Je regrette pas les études que j'ai faites parce que je pense que ça me sert aujourd'hui beaucoup dans mon entreprise et que j'aurais pas pu lancer ma boîte si j'avais pas forcément fait ces études-là et que j'avais fait que l'histoire de l'art. Donc ça m'a servi, mais j'ai été rattrapée par ça et j'ai compris qu'en fait je rentrerais pas forcément dans le moule. Et je pense que ils sont habitués. En fait, ils ont vu que c'est ce qui me plaisait et comme c'est des gens fondamentalement bons. Après, ils m'ont laissé prendre ma voix. Et puis, bon, en même temps, j'avais 23 ans, donc en fait, j'en avais rien à faire. Et ils m'ont accompagnée. Je pense que c'est aussi voir les gens que tu aimes s'épanouir. Au bout d'un moment, tu lâches l'affaire.
Mais oui. Après, s'ils t'ont vu épanouie. Et puis, leur premier réflexe, en général, les parents, c'est surtout de chercher un peu la sécurité, on va dire, pour leur enfant. On a un peu peur pour eux. Mais finalement, donc, ça t'a servi quelque part. Donc, tant mieux.
Exactement. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, vous avez peut-être raison en partie. Et l'important, je pense qu'il faut savoir peut-être challenger un peu ses enfants sur ce qu'ils veulent faire. Leur faire comprendre les difficultés aussi qu'il y a derrière, qu'on n'a rien sans rien. Que vivre de sa passion, c'est très bien, mais parfois, ça demande des sacrifices aussi. Donc, je pense que c'est important de leur ancrer ça. Mais si on voit que ça tient dans la durée, bien sûr qu'il faut soutenir.
C'est important. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Et justement, toi, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais tes études vers lesquelles tes parents te dirigent, tu avais une idée un peu d'entreprendre ou pas du tout?
Oui, j'ai assez rapidement eu envie d'entreprendre. Je ne savais pas encore quelle forme ça prendrait, mais c'était vraiment là. Et dans mes entretiens pour rejoindre des écoles de commerce, j'en parlais déjà, mon envie d'entreprendre. Je leur disais, je ne savais pas quelle forme ça prendra, mais je sens que j'ai un peu cette fibre-là en moi. Et je me suis spécialisée en entrepreneuriat quand j'étais à l'EM Lyon en dernière année.
D'accord.
Et bah, comme tu le vois, en fait, ça a mis presque 6 ans, enfin 5 ans, à vraiment éclore. et à prendre une vraie place dans ma vie. C'est intéressant le cheminement.
Tout à fait, oui. Il y a tout le côté, le temps que ça mature, de comprendre un peu vers quelle direction, dans quoi on a envie d'entreprendre. On peut avoir très tôt envie, mais ça ne se fait pas tout de suite, quoi. Donc, il a fallu passer par tout ce parcours, en fait, pour y arriver.
Exactement.
Et justement, comment tu en es arrivée tout doucement à vouloir créer un studio ? C'était quoi ton envie de départ ?
Alors, j'avais, je pense, deux envies très fortes. La première, c'était de pouvoir aider les artistes convenablement. J'en connaissais beaucoup et selon moi, il manquait quelque chose dans le monde de l'art pour vraiment les aider. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des galeries d'art qui font leur travail très bien et leur travail est de vendre des œuvres qui sont sur des murs, le plus souvent à des collectionneurs. Elles le font bien, mais aujourd'hui, les artistes ont envie d'avoir d'autres opportunités. Ils ont envie de mettre de l'art dans l'espace public. Ils ont envie de faire des projets parfois avec des entreprises, avec des marques. Ils ont envie de sortir parfois juste du petit format de l'œuvre vendue dans une galerie pour faire des projets de plus grande ampleur. Ces artistes-là, à l'heure actuelle, ils sont assez peu soutenus et ils n'ont pas cette aide-là. Donc, il y avait cette idée-là. Et il y avait une deuxième idée, et qui m'est beaucoup venue, je pense, dans mon expérience dans le mécénat, c'est comment on fait venir l'art aux gens et on n'attend pas que les gens viennent à l'art. Mmh. Parce que je suis persuadée que, en fait, les gens peuvent être intéressés par ça, mais qu'il faut leur amener ce contenu et il faut le faire bien. Donc j'avais envie de mettre de l'art partout. En fait, j'avais pas envie de mettre de l'art que chez des riches collectionneurs, j'avais envie de mettre ça justement, ben, comme les artistes, dans la rue, en entreprise, et de repenser aussi tout notre environnement visuel. On a de la publicité partout autour de nous. Aujourd'hui, c'est énorme, la communication visuelle est omniprésente.
Oui.
Et ma vraie réflexion était comment on remet un contenu qui est enrichissant et stimulant dans cette publicité. Et je pensais qu'une des solutions était l'art. Donc j'avais ces deux objectifs. Premier objectif humain, d'aider des talents à se faire connaître. Et le deuxième, de rendre l'art accessible parce que ça m'avait tellement apporté. Et je me suis dit, mais plein de gens, en fait, pourraient en avoir un avantage tellement fort dans leur vie, mais ils ne savent même pas que ça peut exister pour eux. Donc c'était un mélange de ces deux choses.
D'accord. Et justement, tu avais tous ces contacts et tu t'en es rendu compte quand tu étais à l'Opéra de Paris ?
Oui, je m'en suis beaucoup rendu compte là-bas parce que malheureusement, enfin dans ces institutions, il y a beaucoup de moyens humains et beaucoup de moyens financiers qui sont mis pour ouvrir les portes de ces maisons-là. Mmh. À de nouveaux publics, franchement, c'est des gens incroyables, ils font un superbe travail. Mais pour moi, ça suffisait pas et j'avais l'impression que ça fonctionnait quand même assez moyennement et que c'est pas en faisant venir juste une classe, tous les 6 mois, voir un spectacle, qu'on allait changer les choses, en fait, qu'il fallait pas penser les choses en surface, mais profondément en profondeur. Et c'est là qu'est née cette envie de mettre de l'art vraiment dans le quotidien. Parfois, ces lieux d'exposition... Bon, il y en a qui sont très fréquentés, hein, les expositions du Grand Palais, du Musée d'Orsay, il y a beaucoup de monde, mais il y a quand même l'idée du lieu un peu sacré. Et il y a des gens qui, en fait, ils ne sont pas accompagnés, pas nés dans une famille où on fait déjà ça ou dans des bonnes écoles, qui ne vont pas forcément passer ce pas-là. Donc moi, j'avais envie que n'importe où on soit, on puisse marcher et voir de l'art, et que ce soit de l'art qui, à la fois, apporte de la beauté dans le quotidien, mais aussi fasse potentiellement réfléchir les gens aussi sur leur vie. Donc... c'est le début de la réflexion, mais le Palais Tokyo et l'Opéra m'ont beaucoup apporté en ce sens. Et aussi peut-être sur la solution, c'est-à-dire que, par exemple, au Palais Tokyo, j'ai été aussi beaucoup contactée, par exemple, des plus petites entreprises ou des plus petites marques qui disaient « Ah, on a envie de s'associer à l'art, travailler avec des artistes. » Mais des grandes institutions comme le Palais de Tokyo ne travaillent pas avec des petites entreprises parce qu'ils ont besoin de gros fonds. Donc, ils travaillent souvent avec le CAC 40 qui va mettre beaucoup d'argent d'un coup. Et je devais refuser des entreprises qui n'étaient pas très grandes et qui avaient envie de soutenir l'art. Enfin, je me suis dit, c'est quand même absurde. Le monde de la culture a besoin d'argent, les artistes aussi, et là, on refuse des financements. Et donc voilà, il y avait aussi cette chose de comment on permet de tisser des liens entre l'art et ces plus petites structures qui ne sont pas la BNP Paribas ou Rolex. Quoi.
Oui, parce que normalement, l'art en soi, c'est accessible à tous, mais il y en a qui sont plus ou moins sensibles ou qui n'ont pas toujours cette idée-là de... bah, d'aller vers l'art, en fait. Du coup, là, ton idée à toi, c'était vraiment de leur apporter ça dans leur environnement au quotidien.
Exactement. Et ce qui est bénéfique aussi pour l'artiste d'une certaine manière, parce que les artistes aujourd'hui sont quand même, ont une promotion dans un microcosme en réalité. Il y a des artistes visuels qui sont extrêmement talentueux, les plus talentueux de leur génération, et le grand public ne les connaît pas. Donc c'était aussi comment on permet à ces talents d'avoir une aussi grande place que certains chanteurs, que certaines actrices. Comment ils peuvent avoir la couverture, en fait, et comment ces gens-là, ils méritent d'être entendus. Donc c'était pour la population, mais c'était aussi pour ces artistes. parce que je pense que ça doit être les stars de demain. Et moi, c'est ma plus grande joie que nos artistes deviennent mainstream, en fait. Et c'est aussi l'idée.
Tout à fait, oui. Il y a les artistes d'un côté, puis il y a les personnes autour. Parce que j'allais te poser la question, est-ce que tu peux nous dire justement quel est le rôle de l'art dans la vie des gens? Parce que c'est intéressant, j'ai lu un article qui disait que pourquoi l'art est-il indispensable à notre cerveau? Je ne sais pas si tu as vu, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une étude là-dessus et qui disait que le contact avec l'art est loin d'être une activité non essentielle, parce que c'était par rapport à la crise sanitaire. Au contraire, c'est indispensable pour notre bien-être, surtout en temps de crise. Et tu as même le neurologue qui disait, alors Pierre Lemarquis, qui dit qu'en nous privant de l'art, on tue notre envie de vivre. Je trouvais la phrase assez forte.
Ouais, c'est très
donc
fort.
On ne se rend pas compte à quel point, en fait, psychologiquement, neurologiquement, ça a vraiment un effet qui est bénéfique sur notre cerveau. Et qu'effectivement, pendant la crise, du coup, on n'avait plus ce contact-là. Donc, c'est quoi justement le rôle de l'art pour toi dans la vie au quotidien des personnes qui veulent leur apporter justement?
C'est très intéressant ce que tu cites. Et d'ailleurs, Pierre Lemarquis, je l'ai cité lors d'un événement qu'on a fait il y a 6 mois pour ses recherches sur le cerveau. Et il a notamment prouvé autre chose qui est qu'être en contact avec de l'art augmente l'empathie. Donc ça, c'est aussi extrêmement fort. Donc je pense que ma réponse, elle est multiple, mais déjà, on peut commencer par là. C'est que je pense qu'être face à une œuvre d'art, c'est comme quelque part lire un roman. C'est qu'en fait, on se plonge dans une autre histoire, on peut voir les choses sous une autre perspective, et en fait, ça nous permet de comprendre encore plus l'humain. Donc ça, c'est extrêmement fort, ça nous connecte à nous-mêmes, et ça nous connecte aussi aux autres. Parce qu'évidemment, les artistes, il y a un aspect pictural, beau au sens propre du terme, mais il y a aussi l'histoire qu'il y a derrière une œuvre. Et souvent, les artistes, ce sont des personnes qui vont penser le monde avant les autres, qui vont être des précurseurs. Donc, ils pensent l'humain et ils pensent la société. Et je pense qu'ils peuvent être une énorme source d'inspiration pour penser mieux notre société, même mieux notre vie. Franchement, moi, être au quotidien avec des artistes, ça me permet de réfléchir tellement de choses sur moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait ce métier-là. C'est tout le temps prendre le temps de voir les choses un petit peu autrement, sous un autre prisme. Et c'est là que c'est, je pense, extrêmement fort et que tout le monde devrait avoir ça dans sa vie. Et c'est intéressant parce que j'avais lu aussi cette interview de Patricia Barbizet qui a travaillé pour Bernard Arnault et qui a développé toute la collection de Bernard Arnault. Et elle disait, selon moi, c'est pas un hasard aussi si Bernard Arnault est un homme qui réussit autant. Il y a multiples facteurs, mais le fait qu'il se soit entouré d'artistes et d'art, ça n'est pas pour rien. Et tout le monde pense que c'est la conséquence, mais en fait, ça peut aussi être la cause de son raisonnement. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment la stimulation intellectuelle et le regard humain que ça nous permet d'avoir. Et ça, pour notre vivre ensemble, je pense que c'est très fort.
Mmh. Oui, pour le vivre ensemble, effectivement, c'est très fort de pouvoir, à travers l'art, voir, interpréter des choses, enfin, se développer l'empathie, comme tu dis.
Exactement. Et d'où l'intérêt aussi de mettre de l'art, par exemple, dans l'espace public, parce que, évidemment, déjà, ça va créer le choc, ça va créer l'émotion, déjà, chez les gens, mais c'est aussi les discussions que les gens vont avoir autour des œuvres qu'ils vont voir. Et ça, c'est extrêmement fort aussi, comment l'art peut faire naître la discussion. Parfois, une discussion qui ne va pas du tout être engagée, mais faire naître cette discussion, je trouve que c'est très fort.
Tout à fait. Justement, pour arriver à là, donc quand tu décides de créer le studio Artera, déjà aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses missions, très concrètement, et comment tu t'es pris pour lancer le studio? Tu as commencé par les artistes. Je sais que ça tourne autour de 4 missions. Et... du coup, ça fait 3 questions, mais je vais peut-être rappeler que tu as un associé qui s'appelle Giuliano. Donc, vous êtes ensemble, nous dire un peu qui il est, à quel moment il joue un rôle dans la création du studio.
Oui, bien sûr. Alors, Studio Artera, pour le présenter en quelques mots, c'est une agence de talent, mais dans le secteur des arts visuels. C'est-à-dire que nous, on s'inspire des agences qui existent aux États-Unis, notamment à Hollywood, qui soutiennent les meilleurs acteurs, les meilleurs sportifs. Et il faut savoir que tous ces talents qu'on connaît, ils n'auraient jamais pu devenir les talents qu'ils sont s'ils n'avaient pas été soutenus par des bons agents et par des bonnes agences. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous a inspirés, c'est comment on s'inspire des meilleurs en termes de création de talents pour penser notre modèle. Donc aujourd'hui, on a une agence de talent qui mène 2 actions principales. Donc nous, on va chercher celles et ceux qu'on considère être les meilleurs artistes visuels de notre génération. Donc ça peut être des peintres, des photographes, des sculpteurs, des artistes digitaux. Et la deuxième action qu'on mène, c'est qu'on va diffuser leur art au plus près des gens. Et ça, on va le faire en développant principalement 3 types d'actions. Tout d'abord, on vend leurs œuvres à des collectionneurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et c'est important dans la promotion de l'artiste. Mais ce qui est vraiment cher à notre cœur, c'est le deuxième axe qui est les collaborations qu'on développe entre des artistes et des marques et des entreprises. Donc comment on fait entrer de l'art dans des entreprises ou comment on fait entrer de l'art dans des campagnes de communication, dans de la publicité.
Et auprès d'entreprises, j'imagine, qui sont plus petites que les gros groupes, comme tu disais tout à l'heure.
Nous, on serait ravis de travailler avec des gros groupes. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'un jour, on le fera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un plaisir de pouvoir mettre de l'art aussi mais dans des plus petites entreprises. Et ça, c'est vraiment super. Et le troisième axe, ce sont des projets d'art public. Donc là, c'est comment on fait entrer de l'art dans l'espace urbain. Donc concrètement, dans les rues de Paris, dans l'espace public. Ça, c'est vraiment un axe qui nous est très cher aussi. Tout ça pour dire qu'on pense une stratégie qui est à 360 degrés autour de l'artiste. On va prendre l'artiste, on va réfléchir à court, moyen, long terme, comment on peut l'aider, comment on peut construire sa carrière. Et c'est les trois piliers sur lesquels on s'appuie, avec en plus évidemment la communication et la médiatisation autour des projets qu'on va générer autour de l'artiste. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on a une dizaine d'artistes. L'idée, c'est d'en avoir plus ces prochaines années. On a eu aussi beaucoup de projets, donc on est très contents en tout cas de ce lancement. Pour ce qui est de la temporalité, on s'est lancé officiellement en août 2021. Et avant ça, c'est vrai qu'il y a eu un cheminement. Donc c'est-à-dire qu'un an avant, j'ai commencé à vraiment me dire que j'avais envie de lancer ma boîte. C'est pas très longtemps après le confinement d'ailleurs. Donc ça a vraiment mûri en moi. Et je me suis dit un jour, bon, je vais me lancer, j'y vais. Donc j'en ai parlé à mes employeurs de l'Opéra de Paris, qui m'ont beaucoup soutenue. Donc je les en remercie pour ça. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc je suis partie. J'ai commencé à travailler sur mon business plan, sur mon idée, mais rapidement arrivée sur la table, l'idée que j'avais envie de m'entourer. Parce que j'avais pas envie d'être juste un agent un peu indépendant, j'avais envie de créer une vraie structure qui tiendrait la route, dans la durée, etc. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi, je parlais énormément du projet. J'ai rencontré des gens qui étaient adorables, passionnants, mais il n'y avait pas ce déclic qu'il faut... quand on rencontre la personne de notre vie, hein, en couple, oui. C'est un peu pareil, on sent ces choses-là en réalité. Je ne trouvais pas la personne, et à un moment, j'ai posté une story sur Instagram, mais vraiment la story la plus simple du monde, qui disait « Si vous êtes intéressé par l'art et par l'entrepreneuriat, contactez-moi, je cherche des associés. » Et c'est là que j'ai reçu un message de Giuliano Saldico, que j'avais rencontré chez Christie's. J'étais en stage là-bas, lorsque j'étais à l'UMU en stage de césure. Christie's, c'est une des plus grandes maisons de vente avec Sotheby's. Donc on travaillait là-bas au département marketing, on s'était très bien entendus, mais après le stage, voilà, un peu comme dans beaucoup de relations, c'était perdu de vue sans raison particulière. Et là, 5 ans plus tard, ça tombe dans mes sur Instagram.
C'est drôle comme histoire.
Ah, c'est drôle, ouais, c'est drôle. Et il me dit, écoute Mathilde, moi en ce moment, j'ai quitté mon travail il n'y a pas très longtemps, en tout cas, je serais très curieuse de te rencontrer pour parler de ton idée. Donc il me dit, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc je lui raconte, mais vraiment je lui donne, je sais pas, 5-6 lignes à peine. Et après on s'est revus une semaine après, c'était sur le canapé là d'ailleurs, c'est rigolo dans cette pièce. Et en fait il est arrivé, on a passé 6 heures à parler, non-stop de tout. Et il avait tout compris, il avait travaillé, je me souviens il a préparé ce PowerPoint avec toutes ses idées et tout ça, alors que j'avais donné 6 lignes. Et même avec ces 6 lignes, il était déjà...
Elle était déjà dedans, en fait.
Ah ouais, il était dedans. Il était dedans et je me suis dit, waouh, enfin, j'étais impressionnée. Donc, à la fin de cette journée, on s'est dit, bon, écoute, ça matche plutôt bien, mais prenons le temps d'y réfléchir, etc. Et en fait, un mois après, on commençait à travailler sur le projet en réalité. On s'est dit, bon, on y va doucement, petit à petit. On voit si ça marche. Et en fait, ça a marché. Et 6 mois plus tard, on ouvrait officiellement le studio Artera. Et en termes de répartition aujourd'hui, au début, vraiment la première année, on faisait un peu tout ensemble. Enfin, c'est souvent comme ça. Oui. Maintenant, c'est quand même réparti. Lui a un profil beaucoup plus histoire de l'art. Donc, il a fait l'histoire de l'art pendant toutes ses études. Donc, il a une très bonne plume. Donc, il est très fort pour parler de nos artistes. Ça, c'est aussi notre directeur de communication. Donc, il gère tous les contenus que vous voyez sur les réseaux sociaux, partout, qui écrit les articles sur nos artistes et qui aussi développe quand même pas mal de projets en interne. De mon côté, j'ai plus la vision, je pense, stratégique et business, c'est-à-dire que je vais chercher des nouveaux clients, donc notamment toute la partie pour nos projets d'entreprise avec les marques, je vais les chercher, les projets d'art public aussi. Donc un vrai côté de prospection que j'ai appris finalement au Pays de Tokyo, à l'Opéra de Paris, et la vision stratégique de penser l'avenir. Et les artistes, on s'en occupe tous les deux. C'est hyper important et je pense que ce qui fait que les artistes aime aussi le studio Artera, c'est parce qu'on est deux et qu'on est hyper différents et que voilà, en fonction de ce qu'ils vivent ou ce dont ils ont envie de parler, ils vont pas se tourner vers l'un, enfin ils vont se tourner vers l'un ou vers l'autre.
Vous vous complétez bien.
Complètement. Ouais.
Le destin vous a réunis à nouveau finalement pour.
C'est ça.
Est-ce que tu as une expo, justement tu me parlais d'expo dans l'art, on va dire dans le milieu urbain, donc tu as un exemple qui t'a marqué, que tu peux partager avec nous, ou peut-être que vous avez déjà organisé.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au projet d'art public, on en a un qui arrive bientôt. Bon, bien sûr, tout le monde est les bienvenus. On a beaucoup travaillé avec la ville de Paris, notamment le 10e arrondissement, pour créer toute une exposition immersive qui sera dans la mairie du 10e. Donc là, ça va vraiment être une très belle exposition avec des grandes installations. Le vernissage est le 9 février, donc j'invite tout le monde à venir. Il y aura 3 artistes mis en avant, Mathias Ben-Simon, Caroline Dervaux et Itchy. Et en même temps, en parallèle de cette exposition, on va développer des projets dans l'espace public. Donc je vais pas trop encore en dire parce qu'on veut garder la surprise, mais il va y avoir voilà, un petit peu une explosion de petits projets Studio Artera dans la ville au mois de février. Et ça fait un an qu'on travaille sur ces projets en fait. Et c'est vrai qu'avec les projets, avec des collectivités ou des mairies, les temporalités sont très très longues.
Oui, donc, j'imagine.
Ça prend du temps. Donc là, ça va être le premier projet, mais il y en a d'autres. Et on travaille notamment en ce moment sur un projet pour les Jeux Olympiques. Donc ça, pareil, les délais, bon, bah, ça va plutôt apparaître en 2024. Mais c'est un projet qui va être important et qui va être avec des acteurs qui sont très reconnus. Donc les projets d'art public sont profondément en cours en ce moment pour nous.
D'accord, c'est bien les Jeux Olympiques, hein. Super.
Ouais, on est contents.
Mais justement, comment vous avez réussi en tant que nouveau studio à aller convaincre ces institutions, ces lieux à vous suivre? Parce que j'imagine, je ne sais pas, je pense que tu as fait une étude de marché un peu avant, est-ce qu'il y avait ce style de studio existait déjà ou pas du tout?
En fait, dans les agences de talent, dans les modèles, aux États-Unis, comme je te le disais, ça existe beaucoup, mais moins dans l'art visuel, donc beaucoup plus dans le cinéma et le sport, donc on s'est beaucoup inspiré d'eux.
D'accord, parce qu'en France, il n'y avait pas ce genre de...
Il y en a, en fait, il y en a dans le monde du cinéma, mais ils sont un peu moins performants qu'à Hollywood, donc on a préféré s'inspirer des meilleurs, mais il y en a quand même en France, hein, bien sûr. Et sinon, vraiment, dans le monde de l'art contemporain, en fait, il y a des agents d'artistes, mais qui sont des indépendants, et ça fait longtemps. Donc par exemple, nous on en connaît un avec lequel on travaille bien aussi, qui lui va avoir par exemple 5-6 artistes et il va s'occuper d'eux à plein temps. Mais voilà, il est auto-entrepreneur, il est freelance en fait.
D'accord.
Et nous on voulait structurer ce métier et faire en sorte que on puisse peut-être dans quelques années avoir plusieurs agents pour s'occuper de plusieurs artistes. Donc ce soit autant structuré que dans le monde du sport ou du cinéma par exemple. Donc ça c'était important pour nous. Et sinon, il y a des agences qui existent, qui travaillent spécifiquement sur les collaborations artistes et marques. Donc il y en a qui font que ça. Mais nous, on ne voulait pas se limiter à ça parce qu'on voulait plutôt créer des talents. Et il y a des talents qui vont avoir besoin de travailler avec des marques et d'autres qui vont avoir besoin d'être exposés dans des musées. Donc on voulait garder cette flexibilité en fonction de chaque artiste.
D'accord. Et justement, comment vous avez réussi à convaincre ces lieux où...
Oui, alors ça, franchement, c'est comme tout entrepreneur, on y allait un peu au culot. Non, en fait, on envoyait des emails, on essayait d'obtenir un rendez-vous, on continue d'ailleurs, et une fois qu'on est au rendez-vous, on pitch le projet, on pitch nos artistes, et on essaye de les convaincre. Et franchement, on ne pouvait pas savoir la première année si vraiment ça allait marcher, parce que... Oui, tu fais des études de marché, mais le terrain peut être très
différent.
Oui.
Il y a une différence entre études de marché et terrain. Après.
Exactement. Et pour l'aspect, pour les entreprises et les marques, c'est quelque chose que j'avais fait avant, donc au Palais de Tokyo, à l'Opéra de Paris. Donc, je savais déjà un petit peu le faire, donc ça m'a beaucoup aidée. Donc, c'est vraiment des démarches de prospection. On va envoyer des mails, obtenir des rendez-vous. J'avais déjà un réseau aussi qui m'a quand même pas mal aidée, que j'avais développé là-bas. Pour l'art public, c'était complètement nouveau. J'avais jamais travaillé pour des mairies, pour des institutions... Mais pareil, bonne surprise en fait, on a envoyé des mails, on a eu des rendez-vous, et face à nous, on a parfois eu des gens qui étaient extrêmement enthousiastes, tels que par exemple la mairie du 10e arrondissement à Paris, je suis impressionnée, ils arrivent à mettre des beaux budgets sur la table pour soutenir l'art et la culture, et j'aimerais que ce soit comme ça partout. Après, on est en contact justement avec d'autres mairies, même d'autres villes en dehors de Paris, c'est des sujets qui sont aussi éminemment politiques, donc ça c'est des choses sur lesquelles on n'a pas toujours la main, mais parfois ça se développe, donc on y allait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le développement du réseau. C'est qu'en fait, plus tu fais des projets, plus tu connais du monde, plus tu rencontres des gens. Donc ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que notre métier d'agent, nous, dans les 10 prochaines années, je pense même avant, les 5 prochaines années, c'est de réussir à développer un gros carnet d'adresses pour se dire, ok, on a cet artiste, bon, on va le placer auprès de cette institution, auprès de cette entreprise. Et ça commence déjà à prendre, mais c'est un travail de longue haleine. Et les relations, c'est de la confiance et ça se construit petit à petit aussi.
Donc, vous voyez, de la prospection, vraiment, comme entrepreneur. Donc, ça allait taper aux portes, se prendre un peu ces institutions, apprendre un peu à savoir les coulisses, comment ça marche. Et c'est vrai que c'est assez long, c'est très administratif, ça ne doit pas être évident. Oui. Mais c'est bien, donc, si déjà la mairie du 10e, très belle, très bon arrondissement. Je l'ai habité avant, c'est pour
ça. Magnifique arrondissement. Non, mais après, il faut savoir que c'est vrai que, comme dans toute entreprise, 9 fois sur 10, tu prends des noms, en fait.
Mais oui, mais ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu. Donc, c'est la résilience. Mmh. Et en fait, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on signe nos plus beaux projets, en fait. C'est mais parce qu'on ne s'est pas arrêté, quoi.
Tout à fait. Et les artistes, vous les choisissez comment, exactement?
Alors, on a plusieurs critères. Au début, pendant les 6 premiers mois, j'admets qu'on n'était pas encore très structuré. Donc, c'était aussi beaucoup au coup de cœur, en réalité. Au niveau de la personnalité et au niveau bien sûr du talent pictural de l'artiste. Aujourd'hui, on est structuré, donc on a mis en place des critères qui sont importants pour nous. Donc en termes de critères, on va bien sûr avoir l'innovation dans le médium, c'est-à-dire on veut des artistes qui produisent des œuvres qu'on n'a pas déjà vues 100 fois, donc vraiment proposer une nouveauté parce qu'on pense que notre cerveau en a besoin justement de cette nouveauté-là. On cherche des artistes qui posent un regard sur la société aussi, qui ont des messages forts à faire passer, c'est très important dans nos activités, et qui arrivent à en parler. Et troisièmement, il y a vraiment la personnalité de l'artiste, c'est-à-dire qu'il faut des artistes qui ont envie de sortir un peu du circuit traditionnel, des galeries, des foires, pour faire des projets de grande ampleur. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on cherche des gens qui sont très ambitieux et qui ont envie de se dépasser. C'est presque le plus important.
Et qui présente un peu quelque chose de nouveau.
Exactement, qui incarne quelque chose dans la société. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pas que des artistes, c'est des personnes qui vont penser le monde et des penseurs, en fait, d'une certaine façon. Donc, on va chercher ces penseurs. Eux, ça passe par l'art. C'est comme ça qu'ils expriment. Des penseurs, il y en a dans beaucoup d'autres secteurs aussi. Mais voilà, c'est aller chercher qui sont ces esprits brillants et après faire la promotion pour inspirer les autres.
Mais vous les trouvez comment exactement sur les réseaux sociaux ?
Il y a plein de façons. Sur les réseaux sociaux, oui. On va aussi dans beaucoup d'expositions. On va beaucoup voir les écoles d'art aussi pour repérer les talents très jeunes. Ouais. C'est comme ça qu'on a repéré l'artiste Mathias Ben-Simon, qui est un artiste vraiment brillant. Et lui, il vient d'être diplômé des Beaux-Arts. Quand on a commencé à travailler avec lui, il n'était pas encore diplômé. Donc ça, c'est vraiment enrichissant parce qu'on voit des talents grandir. Il commence tout jeune. Et lui, déjà en un an, la progression qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et après, on reçoit beaucoup de candidatures. On reçoit des dizaines de candidatures par semaine, donc c'est énorme. Ça montre d'ailleurs que les artistes ont besoin d'être aidés. Et on fait des sélections dans les dossiers qu'on reçoit. On les lit tous avec beaucoup d'attention. Et il y a un artiste qu'on a recruté via ce processus de candidature spontanée, j'ai envie de dire, de la part des artistes, qui s'appelle Romain Lalire, qui est un artiste qui a déjà fait énormément de projets. Il a déjà fait des projets avec le Palais de Tokyo, par exemple. Enfin, on était choqués quand on a vu son dossier, et on s'est dit, il est extrêmement brillant, mais il a aussi un parcours incroyable, et il veut quand même qu'on l'aide, en fait. Et dans la discussion qu'on a eue avec lui, c'est parce qu'il a dit, mais je n'ai pas rencontré des personnes qui ont un modèle comme le vôtre, et moi, j'ai envie de faire tous ces projets à la fois, et je ne veux pas choisir, et je ne veux pas me limiter. Et donc, ça nous a beaucoup encouragés dans notre modèle.
Tout à fait, oui. Pouvoir proposer justement une palette plus large autour de l'art plutôt que de se fermer, on va dire, à un seul canal.
Exactement, tout à fait.
Et pour les artistes, on va dire, est-ce que les réseaux sociaux, justement, ça leur a permis de montrer un peu plus leur art? Donc, ça a ouvert beaucoup plus de champs possibles pour eux via Instagram et tout le reste, tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que c'est pas plus difficile de sortir du lot?
C'est une très bonne question, je pense. Je pense que ça va dépendre des artistes. Mais ton premier point est juste, c'est-à-dire que je pense que les réseaux sociaux, ça a quand même été positif pour les artistes. Ça les a rendus moins dépendants des galeries. Donc ça leur a permis de vendre de l'art en direct, de créer leur propre communauté, alors qu'avant, Instagram, oui. C'était je vends en galerie ou je vends pas.
C'est ça, ils étaient limités.
Voilà, exactement. Donc ça leur a donné une liberté qui est très bonne. Après, je pense que le revers de la médaille, c'est qu'il y a certains artistes qui donc sont devenus maintenant dépendants d'Instagram et donc parfois vont passer peut-être plus de temps à poster du contenu qu'à se questionner sur leur art, la qualité plastique, l'évolution de leur travail. Et ça, c'est au détriment en fait de leur carrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Nous, on a des artistes qui sont bien présents sur Instagram, pas omniprésents. On a des artistes qui sont très peu. Je pense qu'il faut juste être en cohérence avec ce qu'on fait. Et il faut savoir que le marché de l'art traditionnel reproche beaucoup, donc pas nous, hein, mais plus les galeries, reproche aux artistes d'être trop présents sur Instagram. Donc j'ai rencontré des artistes qu'on ne représente pas forcément d'ailleurs, qui ont beaucoup vendu sur Instagram, mais aujourd'hui ils ont du mal à entrer dans des galeries parce qu'on leur dit, écoute, t'as voulu la jouer solo, t'as voulu faire ça, mais nous on n'aime pas trop ta démarche. Nous, justement, on est beaucoup plus flexible et on va prendre l'artiste comme il est et l'accompagner dans sa stratégie. Et je pense qu'il y a des artistes d'Instagram et c'est très bien parce qu'ils vont inspirer le plus grand nombre, et d'autres où leur art n'a pas la place sur ce réseau et c'est pas grave non plus. Et je pense qu'il en faut pour tous les goûts en fait.
On se disait, oui, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser des outils qui leur permettent de montrer leur art au plus grand nombre alors qu'ils étaient limités avant. Donc après, effectivement, même c'est comme tout entrepreneur, si on se met trop de temps dans la création de contenu et pas assez sur le reste, bah, ça crée un déséquilibre, on va dire, qui peut être mauvais en fait pour son business, hein, quelque part, et pour la visibilité quand on est artiste.
T'as complètement raison, et c'est vrai que j'aime beaucoup faire le parallèle entre les entrepreneurs et les artistes. Et parfois, je crois qu'on oublie que les artistes sont des entrepreneurs
Tout à
qui doivent
fait.
gérer autant de choses que nous, et ils ont les mêmes problématiques,
Tout
complètement.
à fait, oui. Ouais. Oui, ils doivent aller au contact des personnes, justement, de leurs cibles qui vont après acheter leur œuvre. Donc, ça, c'est important. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quel défi, justement, vous avez dû relever qui a été, s'il y avait un gros défi qui a été un peu compliqué pour réussir, le studio Artera?
Intéressant comme question. Je pense que le plus grand défi qu'on a dû relever, je pense que c'est un défi humain. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas des objets, on ne vend pas des services, on vend des artistes. Donc d'une certaine façon, on fait vraiment de la promotion d'humain. Et c'est très compliqué de savoir parfois quelles limites mettre. C'est-à-dire que je pense que la première année, je suis devenue très proche de certains artistes. Je me suis beaucoup attachée à certains artistes. Et parfois, sur ce genre de choses, on peut un peu se casser les dents parce qu'en fait, ça reste des relations professionnelles. Et l'enjeu a été vraiment de trouver un équilibre entre ces relations professionnelles d'agents et en même temps ces êtres humains qu'on voit au quotidien et qui ont leurs hauts, leurs bas, leurs humeurs. Donc, je pense que cette première année m'a appris à créer une espèce de distance, c'est-à-dire évidemment avoir des bonnes relations qui peuvent bien sûr devenir amicales, mais savoir faire la part des choses. Et je pense que finalement, parce que c'est ma personnalité. L'humain, ça a été le plus compliqué à gérer parce que j'aime quand tout se passe bien, quand tout le monde s'entend bien. Mais dans les relations professionnelles, les choses sont parfois un peu différentes et c'est d'ailleurs normal. Donc je pense que, en tout cas à titre personnel, ça a été ça le plus dur. Ça n'a pas été la prospection, ça n'a pas été convaincre des clients, ça n'a pas été me lever à 6h du mat et travailler jusqu'à 23h. C'est pas ça le plus dur. C'est, je pense, de gérer aussi la pression de vouloir tout donner pour nos artistes, parce que je les considère tellement exceptionnels, tellement bons dans ce qu'ils font. Déjà, j'ai envie que ça se passe très bien avec eux, et j'ai vraiment envie de leur apporter les meilleurs contrats, les meilleurs projets. Donc, c'est savoir jongler avec cette pression-là, et le fait qu'en fait, on construit pas juste notre boîte, on construit aussi la carrière d'autres personnes. Donc, c'est prendre du recul, je pense que c'est ça.
Oui, c'est sûr que ça doit mettre la pression, effectivement,
Un
le
peu,
stress.
mais là, cette année, ça
Un
va
peu.
mieux.
Ça va mieux.
Je
Donc,
pense
tu as dû
que.
travailler dessus, en fait.
Exactement. Et de me dire, écoute, tant que tu fais de ton mieux, en fait, c'est bon. Et en fait, je vais parler avec plein d'entre eux qui m'ont dit, mais tout va bien, ça se passe très bien. Donc oui, c'est apprendre à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes qui étaient agents avant, qui m'ont dit, oui, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était trop de pression de gérer de l'humain. Et moi, j'ai envie de dire, oui, c'est beaucoup de pression. Mais en même temps, le jeu en vaut tellement la chandelle parce qu'en même temps, c'est des relations tellement enrichissantes. Et quand il y a un projet, mais tu vois, je saute au plafond en fait et je suis tellement contente pour eux et ils méritent le meilleur et moi me battre pour eux, c'est ce qui a du sens.
D'accord, c'est trouver du sens à travers l'humain.
Exactement, complètement.
Ben c'est très bien, c'est un très beau projet. Et comment tu vois l'art justement dans les prochaines années? Je t'ai montré un peu du Web3 tout à l'heure, ouais. Je ne sais pas comment tu vois les choses évoluer.
Alors c'est un vrai sujet, je pense qu'il va y avoir deux choses en parallèle, c'est-à-dire que oui, je pense qu'on va beaucoup s'appuyer sur les nouvelles technologies, donc tous les sujets d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, ça va être extrêmement présent. Là, on va sûrement travailler avec un grand salon dans la tech, je ne peux pas encore les citer, et l'un de nos artistes qui présente des œuvres holographiques, donc ce sont des œuvres créées avec des hologrammes. Donc ça, notre artiste est vraiment à la pointe de ça, c'est un des artistes les plus à la pointe en France, et c'est absolument fascinant à découvrir, et on n'en est qu'au début. Il me dit, mais ça Mathilde, c'est le tout début, mais t'imagines pas dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ça ressemblera. Donc je pense que, en fait, au fond, on ne sait pas vraiment à quoi ressemblera l'art dans 10 ans, parce qu'il y a des technologies qui ne sont même pas encore développées. Donc ça, c'est assez fascinant. Je pense que oui, il y a tout ce sujet autour des NFT. Nous, on ne s'est pas tout à fait positionné là-dessus parce qu'on attendait de voir un petit peu ce que ça donnait. Je pense que les NFT vont venir compléter le marché de l'art physique et qu'ils vont rester et que le marché commence à s'assainir. Donc en plus, c'est pas mal. Je pense que les NFT donnent aussi une forme de pouvoir aux artistes, les rémunèrent convenablement avec tout le sujet justement du droit de suite. Donc je pense que ça va continuer. Mais je pense que ce qui va profondément rester, c'est l'aspect physique aussi de l'art. Et finalement, ce qu'on ressent autour de nous, c'est que les gens ont envie de se réunir en physique autour d'une œuvre. Et même la vente d'œuvres d'art en ligne, ça marche bien. Il y a 2-3 sites en France qui font ça très bien. Mais la réalité est que les gens achètent beaucoup en ayant vu l'œuvre. Donc ça, on ne remplacera pas l'humain. Et je crois que l'art est justement ce qui doit rester physique parce que c'est ça qui doit nous lier. Donc le digital va venir compléter ça. Il va être important, mais il ne va pas le remplacer.
Oui, oui, je te rejoins complètement. D'ailleurs, c'est ce que disait le neurologue, hein, que je citais tout à l'heure. Et en fait, c'est que l'art à travers un écran, c'est pas du tout la même chose que quand tu le vois. Ça transmet pas du tout la même chose. Donc, ça continuera à être physique, c'est sûr.
Oui, il disait qu'en effet, je me souviens plus exactement, mais quand on est devant une œuvre, je crois qu'il y a des rayons qui vont venir sur notre rétine et qui vont envoyer des messages à notre cerveau pour que notre cerveau nous permette d'encore mieux percevoir les couleurs. Tu l'as lu, ça oui, aussi, oui, de lui. Et ça, c'est complètement fascinant. Et en effet, derrière un écran, ça marche pas.
Ça, bah oui, c'est
donc,
ça.
Ouais. Ouais, complètement. On n'a pas du tout le même rapport aux choses. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait le digital, parce que ça permet à des gens à l'autre bout du monde de voir des œuvres en France. Il y a plein de bonnes choses, franchement. Moi, je suis pas du tout réac là-dessus. Mais il faut
Ça se complète, voilà.
Complètement.
Ça se complète, ça permet, ce qu'on disait tout à l'heure, pour des artistes d'être vus, justement, aussi à travers le monde. Et puis, ça ouvre des perspectives, mais après, ça remplace pas comment dire, la contemplation en physique.
Complètement.
Mais en tout cas, c'est bien, ça donne des perspectives de savoir, enfin, de voir que l'art va évoluer, continuer à évoluer, qu'il y a plein de nouveaux artistes. C'est très enrichissant parce que tu travailles en plus sur plein de domaines différents, aussi bien des grandes expos que des choses un peu plus, on va dire, moins grandes, mais en tout cas des collaborations de marques, etc. Donc c'est super enrichissant. Bah merci beaucoup Mathilde, je vais arriver vers la fin, les dernières questions que je pose. Justement, c'est quoi vos défis pour 2023? Donc il y a déjà la mairie de Paris en février, j'ai noté.
Il y en a plusieurs, là on a de très beaux projets qui se programment. On organise par exemple une exposition pour un fonds d'investissement franco-chinois qui est dans 7 bureaux dans le monde, donc une exposition qui va tourner. On a les projets avec la ville de Paris en effet qui vont se développer, on a des projets avec une école très reconnue en France aussi qui va voir le jour. Donc on a beaucoup de projets, je ne vais pas tous les citer, et je pense que l'enjeu ça va être d'à la fois gérer les projets entrants, donc des projets de plus grande ampleur et plus en plus de projets, tout en gérant le recrutement de nouveaux artistes de talent, tout en gérant l'ouverture de notre capital aussi, parce que évidemment qui veut dire croissance veut dire aussi peut-être levée de fonds, donc ça va être gérer toutes ces choses en même temps, et je pense qu'on a pendant la première année et demie construit des bases qui sont aujourd'hui solides, donc on est assez serein, mais maintenant c'est comment on fait grossir le tout. Donc je pense que c'est ça l'enjeu de 2023 et pas des moindres.
Oui, c'est un gros défi. C'est ensuite la croissance aussi.
Exactement.
C'est pas évident aussi. C'est bien de croître, mais il faut croître de la bonne manière en fait. Celle qui nous correspond en tout cas. Et justement, tous ces projets-là, pardon, c'est tous de la prospection. C'est tous toi qui as été frappé aux portes ou il y a des projets un peu qui sont venus à vous?
Alors il y a vraiment les deux, donc nous on fait une prospection pour nos artistes, par exemple, si je cite des projets qui ont eu lieu, on a développé une collaboration avec une marque de spiritueux qui s'appelle le Barteleur, ça c'est nous qui sommes allés les chercher, Parfois, des marques viennent nous chercher, nous. On a collaboré avec Prada. Et là, ils sont venus chercher le studio Artera. Ils ont dit, écoutez, on veut travailler avec des artistes pour notre boutique du printemps Haussmann. Qui vous nous recommandez? Donc, on a créé une collaboration entre eux et l'artiste Itchy. Et parfois, ce sont des artistes qui vont nous proposer justement des projets qui sont entrants pour eux. Donc en fait, ça dépend vraiment. Mais dans la durée, on a envie que les artistes nous confient de plus en plus les projets justement qui entrent. Là, par exemple, on a été contactés par une agence qui travaille pour un promoteur immobilier qui s'appelle Sauger Prime parce qu'il voudrait intégrer des œuvres de Caroline Dervaux dans l'espace public à Saint-Ouen. Et ça, ils nous ont contactés. Mais ils savaient très bien qu'ils avaient envie de travailler avec cet artiste. Donc en fait, il y a plusieurs canaux en réalité d'acquisition qui viennent soit de notre prospection, soit de l'aura de l'artiste. Et c'est intéressant et ça montre que plus on a des bons artistes, plus on aura de contrats.
Tout à fait.
Donc voilà.
Donc plusieurs canaux viennent à vous.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, qui t'aurait peut-être aidé.
Qui m'aurait aidé. Aujourd'hui, je me dis que le conseil que je donnerais, que donc j'aurais sûrement aimé qu'on me dise, mais ça s'est fait naturellement, si je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré. Parce que, en fait, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments d'intense joie. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un soutien. Et quand je parle de soutien, c'est plutôt un soutien de proches, hein, pas forcément dans ton entreprise, même si l'associé, c'est important. C'est entouré de gens qui vont te soutenir vraiment à 100%. Mm-hmm. Par exemple, si tu es dans une relation, je pense que c'est important d'avoir une personne qui va vraiment être là, qui va te soutenir. Il va y avoir 50-50 au niveau de la répartition des tâches. C'est vraiment extrêmement important. Donc je dirais ça, franchement, entourez-vous des bonnes personnes. Et s'il y a certaines personnes qui sont nocives, next, en fait. Il faut vraiment s'entourer des meilleurs.
Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien?
L'art. Qui tourne en rond. Non, il y a plusieurs choses. Mais déjà, bon, évidemment, je commence par ça. Je pense que, comme je le disais, les artistes avec lesquels on travaille m'inspirent énormément et j'ai expliqué pourquoi dans ce podcast. Mmh. Je lis aussi beaucoup. Donc, la littérature m'inspire de la même façon de l'art que l'art. Donc, parce que lire des livres, c'est vivre mille vies. Donc c'est pouvoir développer un regard sur le monde, c'est pouvoir développer une empathie, c'est pouvoir devenir, en ouvrant un livre, une personne à l'autre bout du monde ou d'il y a 400 ans. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et je pense les rencontres. Là, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais rencontré autant de monde de ma vie. Je rencontre des dizaines de personnes par semaine. Et je crois que c'est ces personnes qui m'inspirent, que ce soit d'autres entrepreneurs, que des personnes qui deviennent des mentors, que des personnes plus jeunes qui viennent me demander des conseils, des clients, des artistes, peu importe. C'est dingue et je me rends compte qu'on se construit autour de rôles modèles et qui c'est très inspirant ces rencontres.
Oui, les rencontres, c'est vrai que c'est enrichissant dans ce domaine-là. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi?
Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est, je pense, les biais qui sont aujourd'hui chez les femmes, qui les empêchent parfois de s'épanouir pleinement ou d'atteindre vraiment leurs objectifs. Bon, ça, les chiffres le montrent, que les femmes négocient moins bien leur salaire, que les femmes entreprennent moins, que les femmes lèvent moins de fonds, etc. Donc ça, c'est prouvé que c'est le cas. Je pense évidemment que les femmes sont victimes de ça parce que c'est difficile de définir la source, mais ça vient souvent d'une éducation, mais de biais sociaux, de biais culturels. Donc c'est vraiment présent. Donc ce que je souhaite pour les femmes, c'est qu'elles osent en fait. Et qu'elles osent autant que certains hommes osent. Qu'elles arrivent à surmonter ces biais, qu'elles arrivent à mettre en place ce qu'il faut pour qu'elles soient heureuses et accomplies. Et ça, je pense que c'est vraiment des verrous mentaux à faire sauter. Je pense qu'il faut que la société l'accompagne aussi. Ce que je souhaite aux femmes, c'est d'arriver à surmonter ces biais, justement, que parfois elles subissent aujourd'hui, qu'elles osent faire ce que des hommes font aussi. Et je me rends compte, hein, dans l'entrepreneuriat, hein, parfois que les hommes vont beaucoup plus oser aller demander ce qu'ils veulent. Et il faut que les femmes fassent pareil. Et il faut surmonter ça. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite, en tout cas, aux femmes qui m'entourent.
De oser, tu as raison.
D'oser, ouais.
Il faut oser vraiment. Exactement. Et ne pas se mettre justement des barrières qui sont mentales et qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ?
Ouais, il y en a deux qui m'inspirent, qui sont très différentes. Donc la première que j'ai envie de citer s'appelle Danielle Deruy, et je la cite parce que c'est ma mère. Et en fait, ça fait 40 ans qu'elle entreprend. Elle m'a beaucoup inspirée aussi, je pense. Et elle a fait une très grande ascension sociale. Enfin, mon grand-père travaillait dans les mines à Auchelles, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une femme qui s'est construite toute seule, qui en est là à sa troisième entreprise. Aujourd'hui, elle dirige un groupe de presse qui s'appelle AEF, donc qui est de la presse professionnelle. Avant, c'était des entreprises de conseil en ressources humaines. Mais dans tous les cas, elle m'a toujours impressionnée. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, si tu travailles et que tu mets de la volonté dans ce que tu fais, tu y arriveras. Et j'ai vraiment grandi autour de cette notion, enfin de cette valeur travail. Elle m'a beaucoup transmise. Et dans l'univers plus start-up, j'ai envie de citer Tara Euset, qui est la cofondatrice de Commune, qui sont des espaces de co-living pour familles monoparentales. Son idée est vraiment d'aider des familles solo, donc des mamans, c'est plus souvent des mamans ou des papas, qui élèvent des enfants seuls, parce que c'est prouvé économiquement qu'il peut y avoir un décrochage de vie. Donc elle a envie d'offrir des espaces communs pour que ces familles monoparentales puissent vivre ensemble. Et c'est une personne extrêmement engagée. Avant, elle avait lancé l'association Règles élémentaires pour lutter contre la précarité menstruelle. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant que tu l'interviewes parce que c'est vraiment une femme qui est exceptionnelle, qui est jeune et qui fait vraiment bouger les lignes.
D'accord, mais j'irai regarder plus en détail ce qu'elle fait, mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer un podcast, documentaire ou livre que tu auras envie de partager avec nous ?
Oui, tout à fait. En livre, le livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois et que j'ai beaucoup recommandé, c'est Le Pays des Autres de Leïla Slimani. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Non, je ne l'ai pas lu.
Mais il est vraiment extraordinaire. Déjà, il est extrêmement bien écrit. Et ça raconte l'histoire d'une Française qui, dans les années 40, tombe amoureuse d'un Marocain et part vivre au Maroc. Avec tout ce que ça comporte, évidemment, par rapport à la place des femmes dans ce pays, comment elle doit s'adapter, et aussi tous les sujets politiques, justement, le Maroc, à cette époque, se rebellait beaucoup pour son indépendance. Donc c'est cette histoire d'amour assez inédite, sur un fond historique qui est vraiment passionnant, et surtout sur la bataille qu'elle mène pour trouver sa place là-dedans. Le titre porte bien son nom, Le Pays des Autres. Donc c'est vraiment le livre qu'aujourd'hui je recommande, parce qu'il m'a touchée.
D'accord, mais je l'ai en plus à la maison, je ne l'ai pas encore lu.
Lis-le, il est incroyable, je suis sûre que ça va te plaire.
Demande le livre à rattraper, mais oui, il faut que je le lise. Je crois que même j'avais commencé un été, et il faut que je le lise.
Oui, il faut se plonger dedans au début, en fait, au bout de quelques chapitres, on est prise, et il y a une suite en plus, il y en a trois.
Ah d'accord, je vais regarder ça, je vais le lire. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne ?
Oui, il y en a plusieurs, donc j'hésite un petit peu. Mais j'aime bien la phrase qui dit « les échecs sont les répétitions de la réussite ». Et ça, je trouve que c'est assez fort. Et en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment garder ça en tête. C'est-à-dire que les échecs peuvent être vertueux dans le sens où ils existent pour une raison et qui vont finalement t'emmener vers ta réussite. Et que tu peux te casser les dents 100 fois, mais que c'est peut-être la 101e fois que tu vas y arriver. Donc il faut garder le cap et... Quand on voit le nombre de personnes qui ont raté deux entreprises avant de réussir la troisième, ouais, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de l'échec.
C'est ça, c'est des expériences en fait dans la vie.
Exactement.
Qui nous amènent toujours après vers un autre chemin.
On apprend
des choses.
Et on
tout
apprend.
À fait, on
exactement.
Apprend. Merci beaucoup Mathilde pour cette interview. C'était très agréable en tout cas de parler d'art avec toi. Si on veut t'écrire, ça se passe où ?
Ça se passe sur Instagram. J'ai mon compte Mathilde Soubi. Ou sur LinkedIn aussi, avec mon nom Mathilde Soubi, je réponds tout le temps aux deux.
D'accord, très bien. Je te laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup pour cet entretien. Je trouve que tu fais un très beau travail avec ton podcast, que tu interviews des profils très différents. Donc continue comme ça, et je pense que c'est aussi des personnes comme toi qui vont changer la place des femmes en leur donnant la parole. Autant que le font des entrepreneurs, il faut qu'on continue dans ce sens-là pour inspirer les plus jeunes générations, même les plus vieilles générations. Il n'y a pas d'âge pour se lancer.
C'est ça. Merci beaucoup Mathilde.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.